Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes très heureux de nous retrouver en ta présence, car être dans ta maison, c'est quelque chose de merveilleux. Mais, pour que notre joie soit parfaite, donne-nous, Seigneur, d'écouter attentivement ta parole, de la comprendre et de la mettre en pratique. Sois avec le prédicateur et mets dans sa bouche les mots qu'il nous faut. Seigneur, que ta parole nous réforme pour que nous puissions être dans le monde le sel et la lumière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin dans le Nouveau Testament. Évangile selon Saint Luc, chapitre 12, versets 32 à 48. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 12, 32 à 48. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veillée, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait les choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on n'exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonjour à nous tous. Bonjour. Nous voulons dire toute notre joie de nous retrouver dans cette paroisse que nous avons quittée depuis le dimanche 28 août 2005. Ça fait exactement 13 ans, 11 mois et 11 jours que nous sommes partis de cette communauté pour l'annexe de Diambou. Et de l'annexe de Diambou, nous sommes allés à l'école. De l'école, nous sommes revenus comme proposants au plateau. Partis du plateau, nous sommes allés à Lonkak comme pasteur. De Lonkak, nous étions à Biémassi. Et de Biémassi, nous sommes actuellement, comme mon frère l'a dit, à Mélène depuis pratiquement 4 ou c'est 4 ou 5 ans. Et je voudrais vous transmettre les salutations de cette communauté
famille qu'est la communauté de Mélène, qui actuellement sait que je suis avec les frères et sœurs de la communauté de Tamja. Voilà.
Je voudrais aussi dire merci.
Merci à mon ami, à mon frère, le pasteur Edouard, qui, sachant que je suis dans la ville, parce que je suis là pour mes congés commencent également aujourd'hui, a bien voulu que nous partagions ces moments ensemble. Et tout à l'heure, on chuchotait, nous disions, on peut tout faire, mais on ne peut pas nous séparer. Mon frère, merci pour l'invitation et pour l'accueil. Parce que depuis l'appel pour savoir où je me trouve, est-ce que tu as déjà traversé Makenene, est-ce que tu es dans la ville, est-ce que c'est un signe de fraternité. Merci encore, Edouard.
Pour ce matin, parce que vous le savez, il y a des gens, quand ils viennent à l'église et qu'on lise le texte biblique comme ça, c'est là où ils se rappellent qu'ils n'ont pas bien dormi la nuit. Et que là où ils sont installés, que c'est une place assez confortable pour être bercé par les bras de Morphée. Ceux qui dorment comme ça, retenez au moins ceci avant de rentrer. Veiller et servir sont deux qualités à revêtir pour être prêt à l'arrivée du Seigneur. Veiller et servir, deux qualités à revêtir pour être prêt à l'arrivée du Seigneur. Bien aimé, le passage de Luc dont lecture vient d'être faite a deux interprétations possibles. Dans son sens le plus restreint, il fait référence à la seconde venue de Jésus-Christ. Et dans son sens le plus large et le plus profond, il fait référence à l'appel pressant et urgent de Dieu pour entrer dans la vie de chaque homme, c'est-à-dire un appel à veiller et à rester vigilant pour la rencontre de son Dieu, à rencontrer son Dieu. Dans tous les deux sens, le texte est une louange au serviteur qui est toujours prêt. D'où l'exhortation de Jésus, que vos reins soient sains, que le maître vous trouve au travail. Jésus invite ainsi ses interlocuteurs à deux actions fortes, veiller et être au service. Chaque dimanche, bien-aimé, dans la confession de foi, nous clamons, je crois en la vie éternelle. Cette vie-là, et je me pose la question, nous intéresse-t-elle vraiment? Sommes-nous de veilleurs de cet avenir? Cet avenir nous tient-il en éveil? Le philosophe et théologien Søren Kierkegaard aurait raison quand il écrivait « L'au-delà est devenu une plaisanterie, une exigence tellement incertaine que plus personne ne la respecte, plus encore ne l'envisage, si bien que la pensée même qu'il a existé un temps où cette idée transformait l'existence tout entière fait sourire. » Fin de citation. Vous n'avez qu'à voir. De nos jours, lorsqu'on dit à quelqu'un « Je reviens », qu'est-ce qu'on nous répond? Voilà. Oui, donc tellement c'est devenu un objet de plaisanterie pour certains que d'autres n'y croient même plus. Il faut le reconnaître. Et la parabole de cet homme riche qui voulait agrandir ses greniers dimanche dernier le confirme. Nous avons moins d'ardeur, moins de passion, moins d'habileté à nous assurer des biens spirituels que les gens du monde n'en ont à accroître leur possession des choses d'en bas. Oui, bien-aimé, notre texte de ce jour nous appelle à être des chrétiens et croyants capables de réchauffer les cœurs parce que nos vies sont fondées sur le roc solide qu'est Jésus-Christ. Ne soyons pas déguisés en chrétiens, mais soyons des hommes et des femmes en tenue et en état de veille, c'est-à-dire en état d'accueillir le don du Père. Pour traduire cette attente, Jésus utilise les images quotidiennes de son époque, celles des gens qui attendent l'époux dont on ne sait à quelle heure de la nuit il viendra. Et nous savons, même dans nos traditions maintenant, ou dans nos cultures, quand une jeune fille veut aller en mariage, le soir de la dot, il faut voir comment les femmes sont souvent impatientes de rencontrer l'âme sœur. Jésus prend également l'image des serviteurs qui attendent le retour du maître. Il prend également l'image du voleur qui vient toujours à l'improviste. Ainsi, cette attente va conduire le chrétien à veiller. Et quand j'ai regardé un peu le sens de ce verbe, veiller, c'est un verbe transitif. c'est-à-dire c'est à la fois un verbe transitif et intransitif, qui selon ce dernier cas, quand il est intransitif, a le sens de rester éveillé pendant le temps ordinairement consacré au sommeil. C'est en fait rester vigilant, monter la garde. Quand il est transitif, veiller signifie rester auprès d'eux. Veiller, c'est ainsi résister à la nuit, c'est-à-dire refuser de nous endormir. Veiller dans ce passage de Luc signifie de ne pas vivre avec une foi endormie, ne pas vivre comme les gens frustrés d'une église qui ne sait plus comment dire Jésus, d'une église frileuse de se mêler à la pâte du monde. Veiller, en réalité, c'est renoncer à ce que nous sommes devenus. Et Dieu seul sait, nous devons renoncer, chers parents, irresponsables à cette attitude et devenir des parents responsables. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de l'excellence académique ou bien scolaire, il y a des parents qui vont s'asseoir au fond, dire que vraiment, mes enfants sont venus accompagner les autres. Que tu as d'abord fait quoi? Nous sommes à la rentrée scolaire comme ça. Il y a d'autres parents tellement irresponsables. Ils vont commencer à rentrer à la maison à 12h30 et sortir parfois à 16h pour éviter tout contact avec les enfants. Et quand bien même les enfants vont monter des stratégies pour les attraper et poser la question de la scolarité, qu'est-ce qu'ils vont dire? Allez voir votre mère. Ils vont se souvenir qu'il est responsable, qu'il est le chef de la famille quand il faut flatter la pauvre pour lui donner un 9e, 10e ou 11e enfant. Il faut devenir responsable. C'est ça, veiller. Veiller, c'est renoncer également à ce que nous sommes devenus. Des menteurs patentés. Car de nos jours, mentir devient parfaitement correct. Si celui qui le fait est parfaitement habile pour dire que c'est l'excès de sagesse ou que ce n'est qu'un problème d'ordre sémantique ou par extension symptomatologique ou lexicologique. Et le Camerounais a tellement excellé dans ce domaine qu'il a prêté au dictionnaire français un nouveau mot, le mot féman. Oui, dérivé de fémo, ça vous le savez. Quand on dit que fémo, ça dit tourner, virevolter quelqu'un pour lui enlever sagement quelque chose. Oui, nous devons donc dire la vérité si nous voulons être de véritables veilleurs. Parce que Dieu peut nous appeler à n'importe quel moment. Et nous savons qu'il y a des gens qui vivent tellement dans le mensonge que s'ils meurent même aujourd'hui, le corps même aura des problèmes. Ne me demandez pas comment. Et si nous sommes des chrétiens, et c'est ça le défi à relever, si nous sommes des chrétiens véritables, je prends un exemple simple. Un chrétien doit vivre dans la vérité. Rentrons dans les couples. Nous savons, il y a dans certains couples où la femme, enfin un couple qui a peut-être 4 enfants ou 5, la femme elle-même sait que le père n'a même pas enlevé le sandam de 5 enfants là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais les deux vivent tranquillement. Et parfois elle est régulière à l'église. Rentre-prie. Tu pries quoi? Si tu écoutes donc le message ici maintenant, parce que quand on dit veiller, Dieu peut arriver à n'importe quel moment, et il peut aussi te prendre à n'importe quel. Il ne faut pas mourir avec ce secret entre guillemets. Tu rentres à la maison, tu appelles ton mari, comme il est chrétien aussi comme toi, tu dis que chérie, assois-toi. Des 5 enfants que nous avons là, vraiment je voudrais te dire que voilà. Mais si c'est compliqué, moi, je pense pas que ce soit compliqué. Et nous savons aussi qu'il n'y a pas que les femmes qui font ça. Il y a également des pères qui sont à la maison comme ça. C'est le jour qu'il meurt que tu vois un enfant ressembler. C'est-à-dire la pauvre, elle croit qu'elle était seule. Mais le jour de l'enterrement, tu vois un enfant qui ressemble tellement à ton mari. Tu commences à dire que qu'est-ce qui se passe? Non, si nous les hommes, nous avons ces enfants-là dehors, tu rentres, tu appelles ta femme, tu dis chérie, assois-toi, j'ai quelque chose à te dire. Voilà. Nous n'avons pas que 3 enfants. J'ai encore 4 à Douala, 2 à Yaoundé, 6 à Abéka. Vous asseyez donc comme chrétien. Et vous dites que ouais chérie, donc tu as fait des choses comme ça. Vraiment, je te pardonne. Tu pries le tarot, vous mangez, vous buvez le vin, et ça finit. C'est ça la vie du chrétien. Et il n'y a même pas que les parents. On peut même pousser plus loin, il y a même des enfants. Quand on parle de l'excellence scolaire et académique là, il y a des enfants qui peuvent bien avoir eu le bac. J'ai entendu près de 34 bacs ou c'est 24 bacs. Mais toi-même, tu sais que tu as eu le bac peut-être avec mention bien, ou bien mention assez bien, supposons 12. Mais tu es conscient que dans les 12, tu as demandé 8 aux voisins. Quand tu dis aux parents que les 12 là, vraiment, je me suis seulement débrouillé pour avoir 4 dans les 12 là. Papa, je te demande pardon, mais ça finit. On est chrétien, on se pardonne et les choses avancent. Parce que Christ peut te prendre. Imaginez, tu meurs avec un gros mensonge comme ça. Tu crois que le Seigneur va t'accueillir comment? Veillez aussi. Et c'est ça la difficulté du chrétien. D'autres peuvent croire que c'est impossible. Si tu crois que tu ne peux pas pardonner à cette femme ou à ce mari, ça veut dire que tu n'es plus chrétien. Aussi simple que ça, tu démissionnes et tu changes de nom. Aussi simple que ça. Veillez également sur le plan tête sociale pour les responsables que nous sommes. Parce qu'il y a d'autres qui sont des cadres dans des bureaux. C'est dit non. Également une catégorisation financière des usagers dans la réception. Parce que quand vous allez dans le couloir maintenant, tu frappes au bureau d'un responsable. Quand tu te regardes habillé bizarrement, la première question c'est tu veux quoi? Mais quand on te voit habillé en vert et tout ça là, la première question c'est tu bois quoi? Parce qu'on sait qu'on peut tirer quelque chose. Non, on doit refuser ça. C'est pourquoi donc nous devons être prompts pour le service. D'ailleurs, le thème de notre chère et tendre église est bel et bien être une église libre et servante dans un monde en furie, même comme elle est elle-même emprisonnée dans un monde je ne sais pas quoi. Nous voyons en fait que le mot service revient dans ce thème. Et nous sommes choisis pour servir. Servir, c'est vouer son action ou ses efforts à quelque chose. Ainsi, le sens le plus fidèle du verbe servir, c'est assister. Servir le Seigneur, c'est donc l'assister dans sa mission d'organisation et de direction de la création. Servir le Seigneur, c'est me mettre à sa disposition pour l'accomplissement des tâches qu'il voudra bien me confier dans le milieu où il m'a placé. Le serviteur de l'Éternel est donc le collaborateur de Dieu dans son champ de mission. Être serviteur de l'Éternel, c'est être ouvrier avec Dieu. Et je me suis posé la question. Les chrétiens de l'église évangélique du Cameroun sont au service de qui, finalement? Notre église doit être au service du Dieu de Jésus-Christ afin de sortir de son laxisme maladif dans lequel elle est plongée, de sortir de cette espèce de somnambulisme spirituel, des égos et du moi surdimensionnés et disproportionnés, de son intellectualisme desséché et même lyophilisé, parce que la spiritualité de plus en plus est en train de tomber dans un coma profond. Oui, nous espérons que notre église sortira aussi de ses fractions et des crises de toutes catégories, de son immobilisme pour enfin réapprendre ou apprendre à vivre comme une véritable famille, afin que le concept de communauté ne soit pas tout simplement un slogan, mais une église où la confiance est mutuelle, le respect de l'autre, la justice, la vérité, la sincérité, l'équité, l'impartialité, l'intégrité, l'humilité, la probité, l'incorruptibilité, l'honnêteté et surtout la fidélité à Dieu, pour ne citer que ceci, reprennent la prépondérance sur nos existences communes. Servir Dieu dans cet état de veille, c'est le faire à la maison en étant de modèle pour nos enfants, en leur inculquant l'exemple d'une vie chrétienne, pas comme certaines personnes qui ont tout simplement démissionné et abandonné leur autorité familiale. Pour exemple, de nos jours, moult chaînes de télévision privées ou publiques présentent des téléfilms avec des scènes érotiques luxurieux dans lesquels les gens s'amourachent sous le regard parfois très curieux et contemplatif et même complice de certains parents qui rappellent même à ses enfants qu'il est l'heure de venir visionner ces feuilletons. Tout ceci à des heures où les enfants sont encore bien éveillés. Servir Dieu au travail, servir Dieu c'est à l'église, servir Dieu c'est dans la société en évitant d'être des partisans incontestés du tribalisme, du maraboutisme, du vampirisme, du clanisme, du voyoutisme, du fétichisme, de l'égoïsme, de l'égotisme et de tous les autres ismes négatifs que vous connaissez. Nous sommes appelés à servir et non pour être servis. Si Dieu nous a appelés, c'est pour son service. Il ne nous a pas appelés pour asservir ou assujettir. Oui, servir, non pour dominer, ni pour exercer un pouvoir sur les autres, mais pour leur donner en temps voulu leur mesure de blé. Luc 12, verset 48. Ce service doit se faire dans un esprit de patience. Un esprit de patience. Parce que si nous veillons et que nous perdons patience, le maître risque d'arriver quand nous sommes endormis. Il faut donc servir en étant patient. Et Dieu seul sait combien notre siècle est celui de la vitesse, où l'on doit produire vite. Et beaucoup avaient des techniques dites de pointe, pas si optimisées, finalisées, qu'elles sont déjà dépassées, plus performantes qu'elles. Regardez les téléphones portables. Tu achètes un téléphone portable jusqu'à tu crois que tu as tué. Après, tu regardes la publicité, on te dit que non, on est déjà au iPhone, machin, où c'est iPhone, combien maintenant là. À peine tu as pris, on te dit qu'on est même plus au niveau du iPhone. Maintenant, on est au niveau de iPad. Tu dis que vraiment, tu veux seulement courir derrière ces gens, tu risques même t'enfermer. Et ce monde occidental qui de plus en plus nous amène à ne même plus être patient, ça nous amène à courir. Je me rappelle quand on est arrivé une fois, quand je suis arrivé en France, je suis aussi de l'aéroport, je vois tout le monde en train de courir. Je me mets aussi à courir à l'aéroport. Après, il m'arrête, dit que je pars où? Je pars où? C'est-à-dire, tu sors, tu ne fais pas attention. Forcément, tu te vois en train de suivre un rythme que tu ne connais même pas. Et c'est ce que les gens sont en train de faire maintenant. Nous courons trop. On n'est même plus pas patient. Regardez, je vous assure, regardez aujourd'hui ce que nous mangeons. Les pommes de terre. Nous mangeons quoi aujourd'hui? Je me rappelle ce que quand ma grand-mère te faisait, ma foi grand-mère, qu'elle te pilait les pommes avec le haricot noir, neuf et le piment jaune là. Mais ça avait tout son goût. Ça avait tout son goût. Mais je vous assure, aujourd'hui, quand on te fait les pommes, on est obligé de chercher la banane, on mélange des choses comme ça, ça n'a plus de goût. Parce que les pommes font combien de temps au sol? Regardez les poulets que nous mangeons. Comment vous pouvez croire un poulet qui fait 21 jours et c'est dans nos mamies, sur nos tables, tu touches la poule comme ça, la peau quitte. On mange, après on commence à dire qu'on a le cancer du col de côlon et tout ce qu'on raconte là. Ça vient de toute cette histoire. Si on laisse même le plan nutritionnel, on entre même sur le plan académique et scolaire. On a créé la CIL, CP, aimanté de coup moins un, coup moins de sixième jusqu'à terminale. L'enfant est au coup moins un. Tu dis que donc, mon enfant est trop intelligent. Il faut qu'il fasse le 7 au coup moins. L'enfant saute. Après, on dit que non, il est très intelligent. Il faut qu'il saute la classe de 4e. Il fait le BEP. Et ainsi de suite. Pour avoir le bac à 14 ans. Et puis quoi? On fait quoi? On est pressé, on part. Où? C'est ça la question. Nous courons. Personne n'est plus patient. Personne n'est plus patient. Et regardez combien on est impatient. Quand on est impatient, c'est-à-dire l'impatience nous envahit. Personne ne veut veiller dans la patience. Regardez comment les gens aujourd'hui se comportent même devant la nourriture. Même parfois, certaines personnes que tu crois qu'ils mangent bien chez eux. Il faut commencer seulement le service. Tu vois comment, si on commence par le fond, les gens vont s'agiter, faire des faux commentaires. En des temps, si on n'a pas pris un morceau de poulet sur la table, faire des choses comme ça, on s'impatiente, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça devient compliqué. Regardez comment les gens se comportent dans les embouteillages. Et comme Bafoussam est en train de ravir aussi la vedette à Yaoundé dans les embouteillages maintenant. On classonne, on fait tout. Personne ne veut encore attendre. Nous courons trop. Nous courons trop. Même les fiancés. Est-ce qu'ils peuvent patienter aussi pour attendre après le mariage avant de... Chacun court. Hein? Et quand tu les attaques, on les attaque, ils disent qu'ils vont goûter comme c'était la sauce. Vraiment, voilà. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Voilà quelques éléments qui doivent occuper notre vie et préoccuper notre existence. La vie éternelle, c'est ça notre trésor. Ou du moins, c'est ce que nous propose Jésus ce matin quand il déclare « Où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Si nous patientons dans la parole de Dieu, nous obtiendrons un trésor. Il ne s'agit pas seulement des biens matériels, c'est-à-dire argent, terre, immeubles, bijoux, ou bien des biens physiques, beauté, jeunesse, éloquence ou charme, mais aussi plus insidieusement, plus subtilement, de ce qui nous mobilise et nous accapare presque entièrement. Famille, carrière, situation sociale, réussite scolaire, etc. Plus loin encore, notre sagesse, mais aussi ces fausses sécurités et aplomb, ces pseudo-certitudes et convictions qui occupent le territoire et mobilisent notre attention, nous distraient et nous leurrent gravement. Retenons que si nous voulons rester en tenue de service, nous devons être des soldats. Et nous savons que des soldats veillent. Ne laissons rien nous distraire. Le monde met tout en jeu aujourd'hui pour nous distraire. Restons fixés sur notre objectif. Et quand le Seigneur viendra, il nous trouvera éveillés, il nous trouvera au service. Et ce qu'il restera de faire, c'est de nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et que le Seigneur bénisse chacun de nous et sa parole. Amen.